Bonjour, Monsieur le Directeur Général.
Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Bobin, Jérôme, de son prénom, est Directeur Général de Handicap International, la section canadienne. On est bien content que celle-ci ait son bureau à Montréal, parce que ça nous donne l'occasion de serrer la pince à Jérôme une fois par mois, lui qui revient des USA.
Oui, tout à fait.
Quand même. Vous vouliez nous parler d'un sujet auquel j'aurais jamais pensé m'intéresser, parce que j'ignorais l'importance en stats du nombre de personnes qui subissent un handicap dans les pays du Sud à cause de la voiture.
Oui, justement, ouais. C'est pour ça que c'était, il me semblait intéressant d'en parler. Quand j'ai commencé à préparer cette chronique, Luc, il y a deux photos et deux images qui me sont revenues en tête. La première, on est en décembre 2008. Je suis moi-même au Cambodge, sur une petite route en direction des temples d'Angkor. Je suis dans un tuk-tuk, vous savez, ces triporteurs à vélo, en fait. Et puis derrière moi, je me retourne et je croise un sourire, deux, trois, cinq. Cinq sourires sur le même scooter.
Wow.
C'est-à-dire une famille entière juchée sur un scooter et seulement la maman porte un casque. Et les quatre enfants, un devant, trois derrière, n'ont pas de casque. Deuxième image, je pense à cette, toujours au Cambodge, on est beaucoup plus récent puisqu'on est en mars 2015. Une petite fille, Kanara, est assise sur son lit, sauf qu'à un pied d'elle, sur sa droite, il y a sa prothèse de jambe et puis il lui manque son bras droit. Pendant une fête de famille, c'est un camion fou qui l'a fauché pendant qu'elle courait à travers la rue et qui lui a causé des amputations. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que là, on est en octobre 2015 et l'Organisation mondiale de la santé vient de sortir la mise à jour de son rapport sur les accidents de la route. Et on parle de 1,25 million de personnes mortes par les accidents de la route sur la planète. Et puis surtout, d'une fourchette de 20 à 50 millions de blessés. Alors vous allez me dire, mais 20 à 50 millions, c'est une grosse fourchette. Mm-hmm. Ben, c'est bien le problème, en fait, de la sécurité routière, c'est que les données ne sont pas encore toutes accessible et du coup on est en train de naviguer pour les accidents dans ce type de fourchette. Ce qui est certain par contre, c'est que 90% des accidents de la route arrivent dans les pays les plus pauvres, les pays en voie de développement.
90%?
Oui.
Ouh, c'est un gros chiffre.
Et Jérôme, tu me signalais qu'entre autres, c'était à cause de l'organisation de la route. Oui, il y avait une certaine précarité ou une certaine, témérité dans la façon de se transporter, mais également l'emplacement des routes trop souvent est cause d'accidents.
Mais en fait, il y a tout un tas de critères. Si vous avez, si ceux qui nous écoutent ont eu l'occasion de voyager, par exemple à Hanoï, au Vietnam, quand on essaie de traverser la rue en centre-ville, on prend un risque quotidien. D'ailleurs, même les guides touristiques écrivent « Lancez-vous, ce sera le trafic qui va s'arrêter ».
Ah ben yeah. Oui.
C'est quand même un petit peu étonnant. Dans d'autres pays, on va croiser des enfants qui vont à l'école, puis ces enfants-là sont doublés par une charrette tirée par des ânes, qui sont doublés par des motos, qui sont doublés par des camions. Et puis tout ça, ça se passe sur des routes avec des boutiques, des marchands, avec des animaux de ferme et tout ça, et dans une joyeuse fête, mais une joyeuse fête qui termine bien souvent très mal. En termes de handicap, Luc, parce qu'on parle des accidents, tous les accidents ne se transforment pas en un handicap permanent, heureusement. On a un gros défi de collecte d'informations. Par contre, les chiffres varient. Par exemple, au Pérou, c'est 4% des blessures qui se transforment en handicap permanent. Ça peut paraître pas énorme. Au Cambodge, on est à 16%. Au Canada aussi, on est à 16%. Et par contre, au Guatemala, on est à 60%. 60% des accidents se transforment derrière en un handicap permanent, avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la prise en charge nécessaire et la réinsertion après de cette personne nouvellement handicapée.
Oui, prise en charge qui n'est pas toujours capable dans bien des pays, là.
Non, et c'est bien justement là où des organisations comme Handicap International peuvent faire une différence. Il y a cinq piliers dans l'action contre l'insécurité routière. Cinq piliers, ce n'est pas nous qui les avons inventés, c'est justement l'Organisation mondiale de la santé, c'est les Nations unies qui définissent cinq piliers. Le premier, c'est la collecte d'informations, j'y reviens, c'est indispensable. Quand on veut s'attaquer à un sujet, il faut qu'on sache de quoi on parle. Et donc dans chaque pays, il faut absolument obtenir des données fiables sur les accidents, les comportements à risque, les situations les plus dangereuses. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, c'est la sécurité des infrastructures. J'étais en Colombie, vous le savez, on en a parlé à cette antenne pour le projet d'assistance contre les victimes contre les mines antipersonnelles. À Bogota, J'ai quasiment vu que des passerelles au-dessus des routes, des passerelles équipées de rampes d'accessibilité pour permettre aux gens de traverser la route. Donc aux gens, c'est forcément aux cyclistes qui peuvent traverser, mais c'est aux personnes à mobilité réduite, c'est aux parents avec des poussettes. C'est une accessibilité pour tout le monde. Il y a des pays qui mettent ça en place, mais entre ce que peut faire une capitale d'un pays comme la Colombie et ce que peuvent faire d'autres pays les plus pauvres, il y a quand même un enjeu important.
Est-ce que le Guatemala, si on revient à cette situation-là, est au courant, dans le sens, traite de façon sérieuse cette épidémie?
Tout le monde voudrait le traiter. Je peux pas croire qu'aucun gouvernement n'ait pas envie de traiter ça de manière sérieuse. Cependant, quand on a à traiter la sécurité routière, mais aussi le service de santé de base de n'importe quel pays, quand on a à traiter les défis économiques, quand on a à traiter les inégalités, la sécurité routière qui, en plus, est directement liée au développement du pays. On n'a pas encore inventé un modèle de développement où on se passe de la voiture, on se passe des routes, on se passe du trafic routier. Donc, plus ces pays vont se développer, plus l'économie va se développer, plus les transports routiers vont se développer et plus les accidents, si on n'y fait rien, si on n'y prête pas toute l'attention nécessaire, vont se développer.
Mais bon, c'est peut-être simpliste de ma part, mais d'apposer des limites de vitesse, de les faire respecter, de mettre des feux de circulation un peu partout, je veux dire, pour que 60% des accidents se concluent par un handicap, c'est que les gens vont trop vite, c'est que les gens... sont peut-être un peu casse-cou, je sais pas, là, mais il y a un problème.
Il y a aussi un défi sur les règles de comportement à avoir aux abords d'une route, parce qu'en fait, c'est aussi très lié, on verra si on analysait tous les documents et tous les chiffres à disposition, on voit bien que dans les communautés, dans les pays où il y a une forte proportion de piétons en tant qu'usagers de la route, forcément derrière, l'accident invalidant est plus important, parce que forcément, quand on n'a pas de carapace autour de soi, on est plus sensible à ça. Donc il y a tout un tas de choses. En effet, les lois sont à changer, les feux sont à installer, les limitations de vitesse sont à mettre, certes, dans les grandes villes, mais ces pays-là aussi ne sont pas tous dans les... Tous les gens ne sont pas dans les grandes villes.
Est-ce que Handicap International est-il apte d'une façon ou d'une autre de faire quelque chose? Et est-ce que les gouvernements sont nécessairement ouvert à ce qu'une ONG vienne proposer?
Oui, parce qu'en fait, Handicap International, ça fait 15 ans qu'on travaille dans la sécurité routière. On est actuellement actif dans 10 pays et on est en train de développer des projets dans 15 autres. Donc, ça fera 25 dans les 2-3 ans qui vont venir. On sera actif en sécurité routière dans 25 pays. Les gouvernements sont partenaires parce qu'ils ont besoin de cette compétence qu'on apporte, soit parce qu'on a développé déjà des choses à succès dans d'autres pays, soit parce qu'on est une ONG originaire du Nord finalement. Donc on apporte aussi des habitudes et des règles du Nord. Et donc les gouvernements sont partenaires avec ça, mais ça passe pas que par les gouvernements. C'est aussi les organisations locales, la société civile locale qui doit être renforcée à la fois dans sa capacité de collecter des données, mais aussi dans sa capacité à aller dans les écoles, à aller dans les rassemblements populaires, à former, à expliquer tout ça. Et puis une autre chose très importante que Handicap, par contre, là, peut apporter, c'est la prise en charge immédiate et puis après, la réadaptation fonctionnelle. Ça, c'est notre cœur de métier. On le fait pour les victimes de mines, on le fait pour les victimes des accidents de la construction, on le fait pour les victimes de maladies invalidantes, on le fait aussi pour les victimes de sécurité routière. Il y a deux étapes. Juste après l'accident, il y a des comportements et des gestes à avoir ou à ne pas avoir. Et ça, il faut renforcer les services d'urgence à avoir ces gestes-là. Et puis, dans un deuxième temps, la réadaptation fonctionnelle et tout ce qui est réinsertion socio-économique, retour à l'école. La petite Canara dont je vous parlais au début, qui a perdu sa jambe droite et son bras droit, après l'avoir appareillée, et d'ailleurs, entre parenthèses, on a mis 4 ans à l'identifier. C'est-à-dire que pendant 4 ans, elle n'a pas eu d'appareillage entre l'accident. Mais maintenant qu'elle a cet appareillage, tout s'ensuit. On peut l'aider à retourner à l'école. Et puis quand elle grandira, on pourra l'aider à trouver un travail et en tous les cas à reprendre la place qu'elle avait avant, peut-être différemment, dans la société.
Et on peut imaginer, si on se compare, on regarde le nombre de personnes handicapées au Canada et l'accès parfois limité. Donc on peut présumer que dans certains pays, maintenant que tu as eu, supposons, une prothèse ou une orthèse, ce qui n'est pas donné à tous. Après ça, c'est de lutter contre les infrastructures et contre un pays qui tranquillement va s'ouvrir à ces nouvelles réalités-là. Donc, on parle de génération.
Ça va prendre du temps. Mais par contre, si on ne fait rien, c'est important.
Vous avez raison.
Si en 2030, l'OMS prévoit que ça soit la troisième cause de mortalité dans le monde, si on ne fait rien. Donc, je pense que ça mérite qu'on s'en intéresse tous.
Mm-hmm.
Troisième cause de mortalité.
C'est énorme.
Quand on pense aux guerres, quand on pense au changement climatique, quand on pense aux
maladies.
C'est fou. Alors, ménageons nos transports.
Oui.
C'est le cas de le dire.
Monsieur Bobin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Au mois prochain.
Ben, j'espère bien.
Eh oui.